tous, vous êtes donc bien sur les ondes de Radio Galère 88.4, le premier mercredi du mois, donc l'émission Libre Débat, cette émission d'histoire qui ne fera pas d'histoire. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fera une lecture de l'urbaniste ou des luttes qui sont associées, tout ça à travers de la musique.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et pour cette émission-là, on avait envie de parler de comment les villes, elles s'organisent. Comment les villes s'organisent... Oh là, il y a un petit bruit en... C'est pas un perroquet, ne vous inquiétez pas.
Si, c'est moi.
On fait pas de la torture sur perroquet dans le studio de Galère.
C'est pas le but.
Et du coup, on voulait parler un peu de l'organisation des villes autour d'un centre. Un centre qui est dédié aux populations riches et les périphéries qui est dédié aux populations pauvres. On voulait aussi parler des transformations des quartiers populaires et des réactions de ceux qui y habitent. Parce que les villes, elles sont organisées en fonction des intérêts économiques. L'espace est au cœur des dynamiques d'accumulation du capital. Et le capitalisme, il se maintient par le développement inégal des territoires, par le fait de maintenir des espaces en sous-développement ou de les précipiter par des crises, pendant que d'autres concentrent les richesses. En résumé, le capitalisme il se développe malgré ou plutôt à travers les crises. Et depuis 2018, le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une forme de remise en question de la centralité. D'un seul coup, la périphérie est apparue dans l'espace politique. C'était la périphérie qui est normalement un territoire inconnu, même si il est super familier, puisqu'il y a quand même la moitié de la population française qui y habite. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, cette périphérie, elle prend une existence politique. Les Gilets jaunes, ils ont investi cet espace qui est normalement fait de non-lieux, avec les ronds-points, les péages d'autoroute, les parkings, les centres commerciaux et les axes de circulation qui organisent et distribuent les fonctions atomisées auxquelles les urbains y sont assignés. Et du coup, cet environnement quotidien que des millions de gens vouaient aux embouteillages du petit matin, de la fin d'après-midi jusqu'avant ce mouvement, il semblait être complètement neutralisé de toute éventualité d'événement, avec des gens qui restaient désespérément invisibles. Grâce aux Gilets jaunes, ils ont existé. Et donc, on va pas parler des Gilets jaunes, même si certainement un jour on en parlera. Mais là, on va parler de... à travers donc la musique, qui raconte par les gens qui l'ont vécu, comment les villes se transforment, ce que ça fait que de vivre en périphérie, comment les populations des quartiers populaires réagissent à l'embourgeoisement de leur quartier, comment la ville peut être un outil de mobilisation, un outil de lutte, une remise en question des rapports d'exploitation et de domination dans la société, une manière de se réapproprier collectivement des espaces.
Eh bien, on va commencer par une chanson de Jacques Dutronc.
Tout à fait.
C'est, ouais, voilà, c'est Le Petit Jardin de Jacques Dutronc.
C'est mignon.
C'est très mignon. Ah.
Excusez-moi, il y a eu un petit bug.
Alors en fait, on est en ligne, il y a un petit bug c'est inversé sur les titres.
Ah merde.
Du coup, peut-être je vais essayer...
Non, c'est qu'elle passe pas en fait.
Ah merde.
Le Petit Jardin ne passe pas, en fait, il y a écrit 00, donc ça veut dire que ça ne passe pas.
Bon, très bien.
C'est pas grave, on la passera plus tard.
Et on va chanter.
Oui, tout à fait, en acapella.
Ah ouais, Le Petit Jardin...
Ok, bon c'est pas grave, on va commencer tout de suite par un texte qui m'avait paru intéressant. C'était un extrait de l'Histoire universelle de Marseille qui a été écrit par Alessi Dell'Umbria. Et dans ce texte, il explique que Marseille s'était développée historiquement autour de son port, en mélangeant des personnes d'origines diverses et aux activités variées, en créant un centre-ville mixte et aux fonctions multiples et une culture urbaine à affirmer. Après la Seconde Guerre mondiale, l'extension de la ville par sa périphérie, elle génère un assemblement de grands ensembles, de zones monofonctionnelles et imperméables entre elles, liées simplement entre elles par un réseau de rocades autoroutières. Là où les rues de la ville ancienne avaient pu changer de fonction avec les époques et accepter l'histoire, et la lente sédimentation qu'elle opère, l'urbanisme, par sa politique de la table rase, n'a arrivé qu'à produire des espaces stériles et un véritable chaos urbain. L'auteur, il insiste sur la destruction ou la négation des formes de sociabilité qui sont propres à la ville, et l'exacerbation des contrastes sociaux et la ségrégation urbaine, qui sont le fruit de l'urbanisme bureaucratique et de la spéculation immobilière. Au cours des années 70, les ensembles HLM des quartiers Est et surtout Nord commencèrent à poser aux autorités de sérieux problèmes. Une partie des premiers résidents avaient commencé à déménager, généralement pour aller s'installer dans des ensembles conçus sur le même modèle, mais réservés à une clientèle un peu plus aisée. Beaucoup de familles pieds noirs abandonnaient ainsi les HLM initialement édifiés à leur intention, tandis que le nombre des immigrés, principalement nord-africains, ne cessait d'y augmenter. Si la première vague d'occupants de ces cités avait connu l'euphorie du confort moderne accessible à prix modique, ceux qui avaient eu la disgrâce d'y naître allaient se révolter à l'idée de devoir y passer leur vie. Ce fut sous l'aspect sauvage de la délinquance juvénile que s'exprima la remise en cause de l'urbanisme fonctionnaliste, mais cette petite délinquance explosa parfois en révolte ouverte. En décembre 1976, un supermarché sur la rue Félix Piat, à côté du parc Bellevue, devait fermer ses portes à cause des pillages répétés commis par les bandes du quartier. En octobre 1980, un jeune Marseillais d'origine algérienne, habitant la cité HLM des Flamands près de Sainte-Marthe, était abattu par un CRS à la suite d'un contrôle. Deux jours après, en plein centre-ville, les jeunes des quartiers nord affrontaient violemment la police et saccageaient les magasins des rues de Rome et Saint-Ferréol. Defer et ses alliés de la bourgeoisie libérale avaient repris le programme lancé par Eugène Rostand à la fin du XIXe siècle, suivant la même croyance que le logement à bon marché résoudrait la question sociale. Les grands ensembles où un bonheur sans fin semblait attendre les heureux élus de la modernité allaient toutefois devenir obsolètes en une génération, le temps que des enfants y naissent, grandissent et se révoltent. Certains immeubles seraient détruits à l'explosif à la fin des années 80, à Frévalon, Saint-Just, Fontvert, La Savine et au plan d'Aou. Édifiés au nom de l'hygiène, ces grands ensembles étaient devenus en quelques années des endroits où l'on mourait jeune, d'overdose, du sida, de suicide, ou même parfois abattu par un voisin irascible. Ainsi s'est réalisée la prédiction de Raymond Loeb à la fin de son enquête de 1944, je cite, construire près du port de grands HBM, donc habitation à bon loyer, à bon marché, pardon, pour loger la majeure partie des dockers, c'est remplacer le taudis actuel étalé en surface par du taudis concentré en hauteur. Le remède est pire que le mal. Les spécialistes n'ont cessé depuis de se répandre sur le malaise des banlieues, mais certaines évidences ont continué à leur échapper. À commencer par le fait que l'urbanisme rendait impossible l'appropriation de l'espace par ses habitants. À la manière tayloriste de l'organisation scientifique du travail, qui supprimait les temps morts dans l'usine, l'urbanisme prévoyait une utilisation performante de l'espace, sans pitié pour ceux qui ne trouvaient pas de place dans la machine infernale du salariat. Les cités dortoirs avaient été conçues pour des habitants ayant une occupation professionnelle et une voiture. Il se trouve qu'à Marseille, l'achèvement des grands programmes de construction HLM coïncida avec la crise industrialo-portuaire et la montée consécutive du chômage au sein de la population ouvrière, en particulier des jeunes. Ceux-ci eurent tout le temps de réaliser l'extrême hostilité du nouvel environnement. Les travailleurs, entraînés par la force d'inertie du quotidien, pouvaient supporter plus ou moins bien cette relégation urbaine, et à la limite ne même pas s'en rendre compte, mais les jeunes chômeurs à vie, non. Élus et urbanistes expliquèrent la révolte des jeunes relégués par le fait que l'on avait négligé le social, ils alléguaient l'excuse de l'urgence. Pour répondre à la question du logement, il avait fallu faire l'économie d'équipements sociaux dont la construction avait été repoussée à un futur hypothétique. Tout avait été en fait prévu par les réglementations d'urbanisme qui définissaient soigneusement la surface des espaces verts, la nature et le nombre des équipements scolaires, commerciaux, socioculturels, administratifs, sanitaires, sportifs, etc. nécessaires aux diverses tailles de grands ensembles. Quand le PUD s'acheva, la municipalité de Fer put se vanter d'avoir réalisé 89 gymnases, 59 stades et 20 piscines en 15 ans. Il suffirait de réaliser davantage d'équipements sportifs et de centres sociaux pour donner un peu d'âme aux grands ensembles. Ramener le malaise des banlieues à un simple manque d'équipements sociaux permettait de ne pas mettre en cause l'inhumanité de l'urbanisme. L'usage systématique de ce terme Inhumanité, montre à quel point l'espace urbain ainsi constitué était fondamentalement antisocial. Alors que la ville est avant tout un mode de communication, ou si on préfère, de rapport social. La vie sociale la plus élémentaire se révélait impossible dans ces grands ensembles, en particulier parce que les habitants se voyaient privés de toute possibilité d'y travailler. Les petits métiers, dont beaucoup subsistaient dans les bidonvilles, n'avaient pas de place au pied des tours conçues pour remplir une fonction unique. Nombre de ces locataires... Nombre de ces locataires sociaux devinrent des assistés à vie soumis à la surveillance tracassière des offices HLM. Ayant renoncé à s'approprier l'espace extérieur, les habitants accédaient à l'intérieur plus confortable, équipé en salle de bain, vide ordure et chauffage central, où ils pouvaient vivre en vase clos indépendamment de tout voisinage. De fait, dans les années 60, où se généralisa ce type d'habitat, aller vivre dans un ensemble résidentiel HLM ou bien privé revenait à entrer de plein pied dans la société du spectacle. Ces grands ensembles avaient été conçus expressément pour des automobilistes et des clients de supermarchés. L'automobile rendait possible la séparation du lieu d'habitat et du lieu de travail et faisait de l'espace lui-même quelque chose de consommable. Ainsi, la façon de vivre de la plèbe marseillaise allait radicalement changer pendant ces décennies que les économistes ont baptisé les Trente Glorieuses. C'est vrai pour la plèbe marseillaise, mais c'est vrai partout en France.
L'élégance dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille le ghetto je retranscris, zigzagant entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage pourtant jeune et ambitieux, c'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y'a une queue d'un kilomètre pour gagner 3 pépés, je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée, le pompe du smica, y'a de quoi s'alarmer. Les bras quoi m'armer, tout ça y'en a marmé. Un jour les keufs viennent te ramener. Vitrine 9-4 de ma ville, je veux être le prince. Je veux pas te cacher, monsieur le maire est une pince. Des promesses y'a pas à dire, y'en a toujours. Rénover les bâtiments, on attend toujours. Et vos monuments à Samba, nous on s'en fout. Soi-disant députés en costard, ils sont fous. Comme tous citoyens, je suis censé aller voter. Histoire de dire que j'existe dans leur communauté. C'est impossible, je vois des frères menottés. Au déboire à Bénoir, c'est pas une nouveauté. À la suite, je félicite les gros bonnets d'illicite. Pas d'ingénieurs dans mon équipe. On est jeunes et ambitieux. Parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux.
C'est quand tu veux.
On vit en HLM les uns sur les autres, et lits superposés, j'ai rien connu d'autre. On a la rage, mais comment rester sage. On vit en marge, en gros on est tous barges. Souvent les huissiers à ta porte font éruption. Si tu payes pas ton loyer, c'est l'expulsion. Val-de-Marne, pourcentage d'immigration aussi élevé que tous mes frères qui mettent en prison. Pour se payer un avocat, pour plaindre Pascal. Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences. On n'a jamais eu de chance, les circonstances fort qu'un pénitence. T'as pas réglé tes amendes, le trésor public t'a coincé. Oublie les vacances d'été, les TIG. Surtout on met la pression. Ta boîte aux lettres est pleine de rappels et d'assignations.
Ouais mec, ouais mec. C'est ça notre vie, code 94-400 Vitry. Ma banlieue a ses qualités, ses défauts. Peuplé d'artistes et de sportifs de haut niveau. D'escrocs dans les halls jusqu'aux bureaux municipaux. Gros, tous vitriaux,
vitriaux.
Et même si c'est pas tous les jours facile, je veux être le prince de ma ville.
On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux. Tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Oui, vous venez d'entendre 113, c'était les princes de la ville. Et on continue ce petit tour de « On a chanté la ville » avec plutôt de la chanson française, qui date des années 30, quand il n'y avait pas encore les grands ensembles. C'est une chanson de Reda Kerr qui s'appelle « Ma banlieue » et qui est peut-être un peu... qui donne peut-être une vision très idéaliste de ce que ça pouvait être la banlieue dans les années 30, mais qui correspond aussi sûrement à un certain rapport qu'ont pu entretenir ces personnes-là dans ces années-là. C'est parti, Reda Kerr, Ma banlieue.
Ma banlieue, a des charmes que rien ne remplace. Pas bien loin, y a des coins où chaque dimanche on se délasse. Ma banlieue, grâce à toi tous les ennuis s'effacent. On devient très fleur bleue, c'est pourquoi j'aime tant ma banlieue. Quand on vit dans la capitale, on a besoin de changer d'air. Et vers la campagne on détale, par la douceur d'un matin clair. On voudrait bien aller à Nice, hélas on n'a pas les moyens. Mais la banlieue a ses délices, c'est moins chic mais c'est aussi bien. Ma banlieue,
ma banlieue,
a des charmes que rien ne remplace. Pas bien loin, il y a des coins où chaque dimanche on se délasse. Ma banlieue,
ma banlieue,
ma banlieue, grâce à toi tous les ennuis s'effacent. On devient très fleur bleue, c'est pourquoi j'aime tant ma banlieue. Le soir on danse à la guinguette, aussi bien que dans un dancing. En espadrille et sans toilette, un vieux chandail comme smoking. L'orchestre n'est pas un jazz hot, c'est un phono un peu usé. Mais les doux refrains qu'il radote finissent tous par un baiser. Ma banlieue a de beaux soirs que rien ne remplace. C'est l'instant si troublant où tous les deux chéris on s'enlace. Ma banlieue, grâce à toi le bonheur a sa place. On devient très fleur bleue. Amour, restons dans ma banlieue.
Et voilà, donc on vient d'entendre, vous l'avez dit, ce son de Reda Kerr qui a donc écrit ça dans les années 30 hein, sur la banlieue. Et maintenant on va donc faire un bond de 70 ans en arrière après cette chanson. On arrive dans les années 2000. Un autre groupe qui lui écrit donc sur sa banlieue. On revient donc avec le 113 et les princes de la ville.
De ma génération vont ainsi.
De l'autre côté de la rue, pardon.
Sur un starting block, de la naissance on dope. Avec la merde on botte, mon pote. Ça arrive dans tous les sens, personne t'entend quand tu cries à l'aide. Quand on te balafre comme un zèbre et que t'es bruyant comme un YZ. Chaque immeuble est comparable à une zone sismique. L'eau, l'une micro-entreprise où le futur licencié explique. Les murs de ma rue me parlent comme à tous ces types. Du jeu de frappe ou de la braque, spécialiste ou fanatique. Véhicule calciné comme monument. Des plats cuisinés par les mamans. On montre à quel point le pays nous manque. On rentre comme des militaires. On se perd tout comme au stock car on se lit. On s'humilie, on se rotka. J'habite de l'autre côté de la rue.
Où ça?
Un cauchemar pour le commissaire Broussard. Du mauvais côté du périph', loin des contes féeriques. Confronté au périph', le moral pollué, toxique. Comme l'herbe, tard le soir au compte du troisième type. Face au contrôle de police, on met nos trucs en pratique. On n'est pas des chiens, tous dominants. tous patrons. Tout en ruminant dans nos gueules, je veux toucher le plafond. La rage c'est pas un truc qu'on recycle. Au-delà du rap et tout ce que je te récite, ça revient à chaque cycle, c'est speed. La violence n'a pas pris une ride. Entre crapules ça se liquide, avec une trêve à la hire.
J'habite de l'autre côté de la rue.
Qui parle, j'habite de l'autre côté de la rue. Un polar, hommage aux disparus. Et au courage qui trime à l'usine, alors on le perce manigance.
Je rentre à deux faucons aux usines.
Aucun salaire fixe, rien à déclarer au fisc. Le peu de fric, c'est pour l'hôtel où se déroulent des films X. T'es fixé au poste, pression caniculaire. Un mélange voyou populaire, des mots oculaires. Et père en colère, on gamberge vite comme un avion furtif. C'est la rillette ou le vice, surveille nos actions et le cours du cannabis. La Havana ou Pattaya comme péché mignon. Enken pour madame qui connaît pas le Dom Pérignon. Les coffres sautent, mec en planque ou en fuite. Fils de con, coup de plante.
Les bateaux rasent ou de plomb.
Une rodka, on te plante. Y'a qu'une saison.
Les plans en solo à 30.
La batte tourne comme un centre. Et moi, je chante. Car d'autres tours sont racasses. Les plus effrontés en cage. Oublie ceux qui t'enfoncent. Pense à ceux qui t'encouragent. Du lundi au dimanche. On lit comme divertissement. On rit au nez des avertissements et des jugements. Et quand les voisins sourient pas, ils parlent pas, m'en parlent pas. Le gros il connaît pas, il renseigne pas. Toutes nos différences raciales dans tout ça. On tient le coup. Et si un jour la chance se présente, on tente tout.
J'habite de l'autre côté de la rue. Les mecs de ma génération vont ainsi. Font qu'un signe, un classique, un principe.
J'habite de l'autre côté de la rue.
Ok, vous êtes sur Radio Galère, on vient d'écouter 113 de l'autre côté de la rue. Et moi j'ai été tombé sur un texte, un extrait du livre Rap, Histoire et Légende du hip-hop marseillais qui est écrit par Julien Valnet et qui donne une description de Marseille dans les années 80 qui n'est pas très très reluisante et je vais vous la lire. À l'aube des années 80, Marseille est une ville meurtrie, crade, sombre, déclassée. Le port est en déclin depuis les années 60. Le trafic s'est déplacé vers les grands ports de l'Atlantique, Le Havre et Rotterdam en tête. On est très loin de la description faite par le célèbre reporter Albert Londres en 1927, qui voit en Marseille le plus merveilleux kaléidoscope des côtes, et en son port l'un des grands seigneurs du large. En 1998, dans les colonnes du quotidien Le Monde, Stéphane Davé fait cette description de la ville. Au début des années 80, Marseille se noie dans la crise. Déjà privée de son statut de port colonial au début des années 60, marquée plus qu'ailleurs par les deux chocs pétroliers de 73 et 79, la grande machine à gérer les immigrés, dont parle le sociologue Jean Villard, connaît des ratés. Chômage et drogue rongent les quartiers nord. Le centre se paupérise, le port est en faillite. Fusillade du bar du téléphone, assassinat du juge Michel. Sur ce terreau fleuriront les haines. En 1984, lors des élections européennes, Jean-Marie Le Pen arrive ici en tête. La cité compte alors trois vitrines culturelles de prestige. Le Théâtre National de la Criée, de Marcel Maréchal, le Ballet National de Roland Petit et l'Opéra. Mais on ne retrouve pas l'effervescence des créations jeunes et populaires agitées par le ministère Langue. La ville a été bétonnée à vitesse grand V. Des dizaines de bars d'immeubles sont apparus, notamment dans les quartiers nord, comme la cité de la Busserine, construite à la hâte au début des années 60 sur l'emplacement d'un ancien bidonville où s'entassaient les travailleurs immigrés. ou comme le 143 rue Félix Piat, la cité la plus insalubre d'Europe, qui deviendra un des hauts lieux du rap marseillais. Particularité locale, ici, les ghettos ne sont pas qu'en périphérie, mais aussi au centre, Belzunce, Noailles, la Porte d'Aix, le Panier. C'est la fin de la French Connection, les réseaux qui approvisionnaient 90% de l'héroïne des États-Unis sont démantelés. La French est décimée. Une recomposition locale a lieu à plus petite échelle. C'est désormais dans les quartiers que s'écoule l'héroïne. Mourad, MC du groupe Uptown, se rappelle. Il y avait des cités où l'on savait que c'était le carrefour de l'héroïne. Tu savais quel était le bâtiment pour aller se fournir. Devant, tu voyais des junkies. J'ai vu des grands frères passer d'hyper sportifs à complètement junkies. On s'est construit en réaction face à ça. Rares sont les espaces d'expression pour la jeunesse. Djali, un membre du futur Massila Sound System. Jusqu'alors, on a eu comme maire Gaston Defer, qui maintient la ville sous une chape de plomb. Les jeunes n'ont pas droit de citer. C'est un homme très austère, protestant. Pour lui, c'est travail et travail. La fête, la rigolade, c'est pas son truc. Plus la French Connection, la mafia, tous les lieux où sortir n'étaient que des endroits pour blanchir l'argent. Defer, moi je l'aimais pas. En tant que jeune, c'était horrible, Marseille avec ce mec. L'amusement, nada, interdit. Il y avait 3 bars pourris de Hells Angels où tu buvais de la bière chaude et où tu risquais de te faire taper dessus si t'avais les cheveux longs. J'exagère pas, j'ai passé une jeunesse abominable à Marseille, il y avait rien. Et quand tu sortais, c'était les bagarres. Quand tu allais au stade Vélodrome pour aller voir un concert, par exemple Bernard Lavillier, tu avais le service d'ordre tenu par les Hells Angels. Ça se terminait en bagarre générale. C'était vraiment des années sombres. Ok, ben du coup, face à ce constat, un peu avant les années rap de Marseille, il y avait déjà des groupes de punk, Warrior Kids, et un de ses morceaux, pour moi, un de ses meilleurs morceaux, c'est Ville Morte.
Yeah.
Ok, vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 FM. On vient d'écouter Wunderbar avec Weekend à Nanterre. Et là, bah, si vous avez écouté un peu les paroles, on se rend compte que ça chante encore l'ennui de la banlieue. C'est des jeunes qui s'emmerdent et voilà. Ils ont que la musique un peu pour se sortir de là.
C'est toujours les mêmes qui foutent le bordel, c'est ce que tu veux dire, quoi.
En tout cas, ça donne envie d'aller dans le centre pour foutre le bordel.
Quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
C'est clair.
Et sinon, là, du coup. On va un peu changer de style de musique.
On va passer chez les poètes.
On va passer chez les poètes avec un poème de Aristide Bruant, qui était un chansonnier qui du début du XXe siècle et qui chantait un peu dans les cafés-concerts et les cabarets parisiens. Et il y a beaucoup de ces chansons qui parlent des quartiers populaires et un peu dans un style argotique et réaliste. Et il y a une chanson qui s'appelle La Place Maubert, qui a été reprise par Brassens, et qui un peu ben, parle de des techniques d'embourgeoisement, et notamment cette place qui fait partie du Quartier Latin, et qui a été attaquée par le fameux baron Haussmann, celui qui, suite un peu à la Commune, a décidé d'enlever un peu, enfin de détruire un peu toutes les rues qui pouvaient être des endroits où ça pouvait un peu fuir la répression pendant les mouvements de révolte. Et du coup, ben Haussmann, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rasé, il a créé des grandes artères pour un peu détruire toutes ces petites rues qui pouvaient être des endroits où ça... Où ça fait,
ça
traficote et ça peut être susceptible d'être des endroits où ça s'organise pour foutre un peu le bordel.
Et c'est ça. Et les grandes artères qu'il a créées, c'était aussi une manière de faciliter les déplacements des troupes, parce que c'était, ben voilà, après on en parlera plus tard, mais la révolution de 48 et la Commune de 71.
1800, tout ça pour ceux qui, ouais. Qui suivent pas toujours. Voilà. 1848.
Et ben voilà, c'était des besoins pour le pouvoir, quoi, de pouvoir faire se déplacer des troupes rapidement dans Paris.
Ouais, et puis c'est comme on le disait vendredi, mais sur tout ce qui est début des politiques urbanistes de contrôle, donc ces grands trottoirs, ça permettait de canaliser d'un côté les piétons, de l'autre les flux de marchandises et de travailleurs par l'intérieur des routes, comme la création de ce qu'on se disait précédemment, les bancs par exemple, les bancs qui ont été faits en sorte pour mieux observer, gérer qui se rencontrait, qui discutait, et tout ça. Donc Haussmannien qui se retrouve dans toutes les grandes villes de France.
Bah, à Marseille, on en a un très bon exemple avec la fameuse rue de la République.
Voilà,
tout à fait. Qui était censée être une des manières un peu de calmer un peu cette ville un peu trop grouillonnante et exubérante qu'est Marseille.
Et c'est vrai que...
À l'époque, ça n'a pas marché, hein.
Et c'est vrai que c'était aussi un moyen, bah, j'imagine pour Marseille aussi, mais en tout cas à Paris, de supprimer les îlots qui étaient complètement insalubres, des quartiers qui étaient complètement insalubres, les vieux quartiers de Paris. Mais ce qu'il y a, c'est que bien sûr, ça a été reconstruit, pas pour les classes populaires qui y habitaient, quoi. Et qui a provoqué d'ailleurs des mouvements de population toujours vers la périphérie de la ville.
Et oui, c'est le leitmotiv qui revient tout au long de cette émission.
Jusqu'aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui.
Et du coup, Place Maubert. Hein.
Place Maubert, on l'écoute.
Chanté par Brassens.
La Place Maubert.
La Place Maubert.
Je me demande à quoi qu'on songe en prolongeant la rue Monge. À quoi que ça nous sert?
À quoi ça nous sert?
Des espoirs, des statues quand on démolit nos rues. À la Place Maubert.
À la Place Maubert.
Quand on n'avait pas de marmite, on bouffait chez le père la frite pour un peu d'aubert. Le soir on levait une pétasse, un choléra sans limace, à la Place Maubert.
À la Place Maubert.
Pour trois ronds chez le père Lunette, ou chanter la môme Toinette, on se payait le concert.
On se payait le concert.
Pour Siron au Château Rouge, on s'orguait avec sa gouge à la Place Maubert,
à la Place Maubert.
Aussi bon Dieu, je vous le demande, quand il n'y aura plus de rue Galande, plus d'hôtel Colbert,
furent tels colères.
Où ce que vous voulez qu'ils aillent, les purotins qui rouscaillent, à la place Maubert,
à la place Maubert.
On leur fout au moins des niches, comme on en fout aux caniches, qu'ils soient à couvert, qu'ils soient à couvert, sous quelque chose qui les abrite, quand ils trouveront Pudgit, à la place Maubert,
à la place Maubert.
Et quand ils fileront la cloche, ils auront tous dans leur poche le surin ouvert,
le surin ouvert.
Sur l'âme et Camarluche, la nuit gare la cremuche, de la place Maubert,
de la place Maubert,
de la place Maubert,
de la place Maubert.
Questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Glu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, da trame cemento, da dove c'è l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Yeah, 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 oh, yeah, yeah, yeah. Ya 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 ya, hey ya ya ya, hey. Non so, non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba. E no, andiamo avanti così. Yeah.
Ok, on vient d'écouter Il ragazzo della Via Gluck de Adriano Celentano. Peut-être que vous connaissez, c'est une chanson de 1966, du chanteur milanais. C'est l'histoire de la Via Gluck, qui est une petite rue près de la gare centrale de Milan, dans un quartier qui était extérieur au centre-ville à l'époque. Juste à l'extérieur du boulevard qui entoure la ville. Si on en croit les paroles, c'était un quartier qui était plutôt, on imagine, un peu rural, un peu entre la ville et la campagne. C'est aussi l'histoire de son pote d'enfance qui un jour lui annonce qu'il va aller habiter en centre-ville et qu'il est très triste de ça. Et alors Adriano Celentano lui demande pourquoi il se met dans cet état-là, qu'enfin il aura accès à tout ce qu'il n'a pas pu avoir jusqu'ici dans sa vie à Gluck, qu'il aura même chez lui une salle de bain et qu'il ne sera pas obligé d'aller de descendre dans la cour pour se laver. Et son pote lui répond donc qu'il ne se rend pas compte de la chance qu'il a d'habiter dans cette petite Via Gluck, que c'est une chance pour les enfants de pouvoir jouer à pieds nus dans les prés, alors que dans le centre, il ne trouvera que du ciment, mais qu'un jour il reviendra et qu'il retrouvera la vie qu'il aime. Alors les années passent, ce type revient Via Gluck pour racheter la maison de son enfance. Et au lieu de ses amis, il retrouve seulement du ciment, du béton et des maisons les unes sur les autres. La chanson dit à un moment, là où il y avait un pré, maintenant il y a une ville. Et cette maison au milieu de la verdure, où est-elle passée? Alors Adriano Celentano se demande pourquoi il continue à construire des maisons et des maisons et des maisons sans laisser un peu de verre au milieu de tout ça. Et cette chanson, elle est assez caractéristique de l'après-guerre des années 50 jusqu'à 70, peut-être même après, en Italie. Ça correspond une période de crise du logement qui était due d'une part aux destructions liées à la guerre et d'autre part à l'exode rural qu'a connu l'Italie dans ces années-là, où c'était beaucoup de gens du sud, qui est le sud plutôt agricole de l'Italie, qui ont migré vers les villes industrialisées du nord pour travailler. Et si on ajoute à ça une stagnation de la construction pendant la période fasciste et une croissance de la population, on arrive à une pénurie de logements confortables. Aujourd'hui, on dirait juste décent pour la classe ouvrière et les salariés modestes. Alors au début des années 50, il y a même une commission d'enquête, une commission parlementaire qui dénonce l'insalubrité d'environ 62% des logements italiens, ce qui semble énorme. Et pour résoudre ce double problème du chômage et du logement, le gouvernement démocrate chrétien il propose alors d'accélérer la construction en Italie et de résoudre le problème de l'insalubrité de l'habitat, qui était pareil, là, voilà, comme je disais, qui était énorme en Italie. Alors malgré tout, malgré ce soutien à la construction, le manque de logements bon marché il s'aggrave même dans les années qui suivent. Le gouvernement il met en place un programme de soutien à la construction, mais qui mène à une extension incontrôlée des périphéries de la ville. Un phénomène d'étalement urbain qui génère des profits d'ailleurs incroyables pour les investisseurs, les constructeurs, et qui est dénoncé dès les années 50 entre autres par un journaliste qui s'appelait Antonio Cederna, qu'on peut considérer comme un des premiers activistes écolos, donc mouvement ambientalista, ce qui veut dire écologiste. Et des petites agglomérations rurales de ce fait deviennent en quelques années des énormes cités dortoirs qui manquent de services et d'infrastructures puisque tous les coûts étaient laissés à la charge des municipalités, donc des choses même de base comme du tout à l'égout, des choses comme ça, tous ces quartiers ont manqué. Et à côté des nouveaux quartiers de barres d'immeubles qui d'ailleurs étaient parfois construites illégalement, en dehors de tout plan d'aménagement, et donc ce qui a amené par exemple à Naples à l'effondrement de deux immeubles et des centaines, des dizaines au moins de morts. À côté de ça, on trouve aussi des bidonvilles qui étaient habités par les ruraux qui étaient venus en ville trouver le confort moderne. Et voilà, donc le manque de logement, la hausse des loyers et les gaspillages de fonds publics débouchent sur une succession de luttes autour de l'habitat et pour le droit à une ville humaine à la fin des années 60. Là, on a une chanson qui est toute trouvée pour en parler, c'est Pino Masi avec Prendiamoci la città.
Questa nostra lotta è la lotta di chi non vuole più servir, di chi ormai cosciente della forza che ha e non ha più paura del padrone, di chi vuol trasformare il mondo in cui viviamo nel mondo che vogliamo, di chi ha ormai capito che è ora di lottare, che non c'è tempo di aspettare. Dalle fabbriche in rivolta un vento soffierà, ovunque arriverà. È proprio un vento rosso che non si può fermare, è unisce chi ha deciso di lottare. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Se occupa le case chi non ce le ha, unisce tutta la città. Si lotta nei quartieri per non pagare i fitti, difendere le case dagli sfratti. Si lotta e si vive in maniera comunista, non c'è posto per il fascista. La giustizia proletaria ricomincia a funzionare con il processo popolare. Dalle fabbriche in rivolta un vento soffierà, ovunque arriverà. È proprio un vento rosso che non si può fermare, e unisce chi ha deciso di lottare. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Proletari in divisa si ribellano perché hanno capito che anche la caserma, come la prigione, è un'arma del padrone. E la loro lotta avanza con la nostra unità verso la libertà. Dai quartieri alle caserme, dalla fabbrica alla scuola, è tutta una lotta sola. Dalle fabbriche in rivolta un vento soffierà, ovunque arriverà. È proprio un vento rosso che non si può fermare, e unisce chi ha deciso di lottare. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. La scuola dei padroni non funziona più, ma solo come base rossa. La cultura dei borghesi non ci frega più, l'abbiamo messa nella fossa. Anche nelle galere della repressione cresce l'organizzazione. Vuoteremo presto tutte le prigioni per fare posto a tutti i padroni. Dalle fabbriche in rivolta un vento soffierà, ovunque arriverà. È proprio un vento rosso che non si può fermare, e unisce chi ha deciso di lottare. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città.
Ok, c'était Pino Masi avec Prendiamoci la città. C'était Pino Masi, un chanteur sicilien qui avait été pas mal actif dans les années 60-70, qui a été assez impliqué politiquement dans ce qu'on appelait la gauche extra-parlementaire italienne, dans diverses organisations comme Potere Operaio ou Lotta Continua. Et cette chanson, elle date du début des années 70, qui était une période d'agitation politique et sociale en Italie, bon, un peu partout, mais dont en Italie, et qui s'est, au-delà des luttes d'usines, etc., qui s'est cristallisée aussi autour des luttes du logement, parce que, bien sûr, ça, c'était une question qui touchait les classes populaires. Le mouvement autonome de ces années-là s'est emparé de cette question et a amené de nouvelles pratiques, et notamment le squat à grande échelle. En février 1974, à San Basilio, qui est une commune de la banlieue romaine, il y a 5000 appartements qui sont occupés en 3 semaines par des familles, et des familles modestes et des militants autonomes, dans des immeubles neufs qui venaient d'être bâtis mais qui n'étaient pas encore habités. Et c'est carrément l'armée qui vient les expulser tellement les squatteurs sont nombreux. Mais le quartier a à nouveau squatté par la suite. Les expulsions, elles provoquent des émeutes qui durent plusieurs jours. Ça débouche même sur des échanges de tirs. Il y a un jeune qui est tué. Et la solidarité et l'organisation entre les squatteurs, elle rend compliqué, même impossible, d'expulser un seul immeuble dans un quartier qui est entièrement squatté. Donc à ce moment-là, c'est la police qui doit déloger l'ensemble du quartier d'un coup, donc qui est forcément plus compliqué et plus qui mobilise beaucoup de moyens, beaucoup de d'effectifs, etc. La résistance, elle prend la forme de barricades qui ferment le quartier et d'affrontements des militants. Et alors là, on voit un peu le partage des tâches, où c'était principalement les hommes des familles qui participaient aux affrontements contre la police, et les femmes qui gardaient les enfants à la maison et qui résistaient, enfin, ou qui tentaient de résister à l'intérieur de l'appartement. Donc voilà, petite division, division des tâches. Et donc ça, c'est des pratiques qui se retrouvent dans beaucoup de grandes, même quasiment dans toutes les grandes villes d'Italie, et d'ailleurs plus ou moins grandes. Et le mouvement autonome, il organise aussi dans ces années-là des autoréductions de factures d'électricité, de gaz, etc., en constatant que les entreprises, par exemple, payaient l'électricité 5 fois moins cher que les particuliers. Et donc, c'est jusqu'à 100 000 foyers entre 1974 et 1985 qui paieront le tarif entreprise, et les employés de la compagnie d'électricité italienne refusent même de couper l'électricité aux mauvais payeurs. Donc là, on voit des moyens de pression assez efficaces quand ils sont opérés à grande échelle. Le Parti communiste italien, il condamne pas ces pratiques, mais il les soutient pas non plus. Et ces luttes qui se poursuivent, on se rend compte qu'elles se poursuivent encore jusqu'à aujourd'hui. On peut penser à la lutte contre les sfratti, les expulsions, autour des années 2011-2012 à Turin, où il y a des pratiques d'occupation de logements vides et de résistance aux expulsions qui sont mises en place, et là encore plutôt à grande échelle.
Même des expulsions locatives, enfin des pratiques de résistance face aux expulsions locatives aussi.
Ouais, exactement. C'est là où, en fait, là où ça dépasse un petit peu les limites du petit, on va dire, cercle politique, etc., c'est que voilà, c'est des familles qui sont en cause, c'est des gens des locataires qui ne peuvent plus payer leur loyer, qui s'organisent, etc. Donc c'est à ce moment-là que, en fait, la grande échelle, enfin le nombre peut jouer, quoi.
Voilà, c'est collectivement, quand un quartier résiste aux expulsions, là ça marche, du coup.
Ouais. Et puis s'organise aussi, à ce moment-là, on peut voir, comme dans les années 70, mais avec autour de ces luttes contre les sfratti, c'était des collectifs de quartier, une vraie organisation au niveau local, on va dire. Et donc tout ça, on peut voir que c'est un moyen de pression sur les propriétaires et même sur la politique pour des mesures de plafonnement de loyer, etc. Et c'est aussi une appropriation de ces conditions de vie par l'appropriation du logement.
Music Maestro.
Alors là, on va s'écouter Berrurier Noir avec Ainsi squatte-t-il. Alors, ah, là, une super intro qui dure environ 15 secondes. Je pensais l'avoir coupé, toutes mes excuses.
Mais c'est punk.
C'est ça, c'est ça. On ne peut pas compter sur eux.
Te souviens-tu encore, la commune des couronnes, une flotte drapeau noir, au milieu du boulevard, c'était autour du feu, qu'on se sentait heureux, on faisait des méchouilles, un peu toutes les nuits. Te souviens-tu encore, de ces concerts sauvages, de la rue des vilains, ils s'en foutent ces romains. On se couchait à l'aube, on se levait le soir, on découvrait notre zone et on chantait victoire. Te souviens-tu encore de ce petit bar squatté? On n'avait pas le temps de l'appeler l'infamé. Et quand un quart passait, tout le monde s'y mettait. Le coffre n'était pas net, c'est une pile de canettes. Dans la Gaule, un petit squat résiste. On y voit de la gnôle, son promoteur Tourix. Maintenant qu'il n'y a plus rien, on ne regrette rien, car il poussera demain des squats comme des petits pains. Tous les mal logés, il y a un comité. Même dans ton quartier, il y a de quoi squatter. Tous les mal logés, il y a un comité qui défend le quartier. Les promoteurs sont cœur. Ainsi squat-il, sans droit ni titre. Ainsi squat, sans toi ni loi. Ainsi squat-il, souvent fauché. Ainsi squat, toujours marteau.
Écoutez, Berrurier Noir, Ainsi squatte-t-il. Et maintenant, on va faire une petite transition pour voyager dans un autre pays, l'Allemagne, en introduisant ça par Nina Hagen. Petite interlude qui passait par Nina Hagen. Comme je vous le disais juste avant, c'est parce qu'on va aller faire un petit tour du côté de l'Allemagne, vous l'aurez compris, à Berlin. Et à Berlin, donc, je vais être obligé de refaire un petit récapitulatif historique pour amener ce à quoi je veux venir. Mais donc oui, l'urbanisation par les quartiers. Alors donc Berlin, bien entendu, hein, qui est une ville qui est marquée tout au long du XXe par trois conflits. Le nazisme, bien entendu, la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. On le sait donc que Berlin s'est retrouvé avec un Berlin-Est et un Berlin-Ouest, qui ça a duré pendant 28 ans, jusqu'à la chute du mur en 1989, le mur construit en 1961. Et Berlin, donc, qui au niveau urbain, a quelques caractéristiques qui n'est pas des moindres, notamment sa taille déjà, 880 km², c'est énorme, qui est fait donc de quartiers d'habitation, d'usines, mais aussi donc de forêts, de parcs, de champs. Ce qui peut d'ailleurs faire un petit parallèle avec ce qui était Marseille ou ce qui est encore Marseille dans les quartiers un peu excentrés, plutôt au quartier sud, hein, disons, même dans les quartiers plutôt classe moyenne, plutôt riche. Du coup, cette ville se retrouve avec deux centres-villes, Berlin-Mitte, qui est à l'est, et Kurfürstendamm à l'ouest. Alors s'il y a des germanophones, je suis désolé pour l'accent, c'est pas très bon. Et ainsi que donc beaucoup de quartiers avec leur identité assez propre. Bien entendu, avec au milieu cette balafre, la balafre, donc selon ce qu'on a appelé le mur de la honte, le mur de Berlin. Et c'est donc une ville où on peut très facilement observer le lien direct qu'il y a entre l'histoire, la géographie, le contexte politique et l'urbanisme. Ainsi, comme le dit un auteur dont je me suis servi pour faire ce petit passage, donc cet auteur, je vais le présenter tout de suite d'ailleurs, c'est Boris Grésillon, qui est plutôt issu du monde universitaire, mais qui a écrit ce texte intéressant, enfin un livre d'ailleurs, mais ce texte en est issu, qui s'appelle « Contre-culture, musique et urbanisme, le cas emblématique de Kreuzberg, de la fin des années 60 à aujourd'hui ». Je pense que beaucoup de gens connaissent Kreuzberg, mais si vous ne connaissez pas, eh ben, continuez d'écouter, je vais vous en parler. Comme dit l'auteur, donc, le rapport des habitants à la culture en général et à la musique en particulier. Donc ce quartier emblématique de Kreuzberg, qui est donc un quartier de Berlin-Ouest, mais ce qui était Berlin-Ouest, qui a été très longtemps délaissé à cause de sa proximité avec le mur. Quartier donc périphérique jusqu'en 1989, date donc de la chute du mur de Berlin, mais qui a occupé à partir de cette date une position centrale dans une agglomération réunifiée. Un peu la spécificité de ce quartier qui passe d'un coup, en fonction de l'histoire locale, d'une périphérie et un quartier central. Donc quartier rebelle, sauvage, alternatif, contre-culturel avec ses squats, un quartier tranquille, pacifié, multiculturel, bref, branché. Alors c'est un peu...
Simplifié un peu.
Ouais, c'est un peu simplifié et caricaturé, mais ça reste... on peut le lire aussi sous cet angle assez rapidement, parce que c'est pas faux non plus, quoi.
Bah, personnellement, j'ai pas connu... au moment où c'était alternatif et tout ça, moi je connaissais pas Berlin à ce moment-là, j'y suis allé il y a quelques années, et Kreuzberg, ça fait vraiment quartier branché, quoi.
Ouais, on pourrait même le mettre en parallèle avec un quartier de Marseille qui est en train de se transformer.
Voilà,
de la même
genre
manière.
La plaine.
Ah oui, c'est ça, la plaine, ouais. Alors du coup, ce que fait cet auteur, c'est que si on jette un œil aux trois dernières décennies du XXIe siècle, donc depuis les années 70, hein, elle arrive à mettre en parallèle une politique urbaine différente, des politiques urbaines différentes, avec leurs aspects, leurs répercussions sur le quartier, et les contre-cultures et musicaux, en distinguant notamment trois parties qui sont assez chronologiques, hein, les années 70, avec donc, le mouvement punk, squat, et l'opposition politique, les années 80, qui marquent le début de la fin du mouvement de ces squats, avec une rénovation plutôt douce, le succès de l'IBA. Alors l'IBA, j'y reviendrai un peu plus tard, C'est en fait une exposition universelle de l'architecture, mais qui dépasse un moment qui en fait était une politique qui a duré une dizaine d'années là-bas et qui a permis du coup de gentrifier Berlin, le centre-ville et notamment la partie est et ce qui était Berlin-Est, quartier pauvre. Voilà. La musique New Wave qui arrive et ensuite troisième partie des années 90-2000, symbole du multiculturalisme, son carnaval des cultures du monde dans un joli cadre urbain bien réhabilité. Vous fait rire.
Joli.
Ouais, c'est joli.
Ah,
ouais.
C'est bien dit.
Alors revenons donc sur Kreuzberg, qui donc, historiquement a été édifié pour héberger les populations ouvrières du Berlin industriel de la fin du 19e siècle. Énorme exode rural en Allemagne, des populations pauvres qui vont vers la ville pour trouver du boulot. Ce quartier qui donc devient très vite un quartier rouge, avec ses logements de mauvaise qualité, ses casernes locatives, c'est comme ça qu'ils les appelaient, c'est les cages à lapins, hein, voilà, ouais, c'est les cages à lapins ouvrières, hein, les cités, comme, voilà, cités ouvrières, jusqu'à la fin de la guerre 39-45 bien entendu. Alors pendant cette période, il y a eu également, et logiquement, énormément de bombardements. Le quartier a été détruit complètement à quasiment la moitié, 42%, quoi. Et tout le reste, très abîmé. Alors après la guerre, c'est des reconstructions qui se met en place, une reconstruction du quartier, souvent d'ailleurs avec une population qui participe activement, qui est assez motivée. Mais il ne faut pas s'y tromper, pour le pouvoir politique et les urbanistes surtout, eux, ils voient l'occasion de transformer ce quartier mixte et pauvre, et ça devient donc un terrain d'expérimentation urbaine assez radical. On rase, bien entendu, tout ça sans l'avis des habitants, on rase tout pour reconstruire du neuf. Alors souvent des grands immeubles qui deviennent plus chers. Et le deuxième pan, c'est ne pas rénover, mais c'est que ces grands promoteurs immobiliers, eux, ils y voient une énorme occasion. Ils se font allouer d'immenses parcelles de terrain, donc ces immeubles neufs. Et ils soutiennent par ce moyen-là l'industrie du bâtiment, qui est un peu la seule à fonctionner à plein régime à ce moment-là. Et surtout à cet endroit-là, c'est un petit îlot capitaliste au cœur de la RDA. Pour ceux qui sont trop jeunes ou qui ne savent pas, la RDA, c'est République démocratique d'Allemagne, qui elle était rattachée au bloc soviétique, contrairement à la RFA, qui est la République fédérale d'Allemagne, qui était plutôt rattachée au bloc capitaliste. Tout ça dans un contexte de guerre froide, les relations sont bien entendu toutes tendues entre ces deux Allemagnes, ça devient difficile de circuler entre les deux parties de la ville. En 1961, le mur de Berlin est érigé. Et Kreuzberg devient donc cette partie périphérique du Berlin-Ouest. On en arrive petit à petit aux années 70 et cette crise du logement. Population qui est pauvre, les ouvriers retraités, beaucoup population immigrée essentiellement turque, mais pas que, des étudiants sans thune, qui n'arrivent plus à s'y loger, mais qui sont quand même très attachés à leur quartier, qui se mobilisent pour enrayer cette politique de destruction en construction. Où les promoteurs, je le disais, construisent des bars au loyer trop élevé, ou alors ils laissent les vieux immeubles pourrir, en attendant que les gens s'en aillent d'eux-mêmes, pour que ça leur coûte moins cher à réinvestir, tout simplement. C'est une politique un peu internationale qu'on retrouve partout dans le monde, quelles que soient les époques. Et va être du coup, à ce moment-là, ce qu'on appellera le mouvement squat, les squats, comme tu le disais par rapport à l'Italie, fin des années 60... c'est la même histoire, quoi. Occupation donc illégale des vieux immeubles, volontairement laissés à l'abandon par les promoteurs. En 79 apparaîtra le premier squat légal, enfin les premiers squats légaux, on les appelait ça occupation d'entretien, c'est-à-dire qu'il y a de la rénovation, proprio est bien d'accord, ça rénove, ça fait des bails locatifs, des baux locatifs, pardon. Et ça donnera même naissance à un conseil des squatteurs,
okay,
qui s'organisent donc même principe que la commune. Alors ça paraît un peu aseptisé comme lutte, mais en fait ils continueront quand même d'entretenir un bon rapport de force face à l'État et à la police, qui va d'ailleurs mettre en place une énorme répression au début des années 80. En 81, ils passent une loi et modifient le code pénal qui permet donc de virer les squats très très vite, et qui va surtout arriver à l'arrestation de 134 membres pour association de malfaiteurs, membres de ces conseils de squatteurs. Alors toujours dans le contexte, les années 70, comme en Italie, c'est les années de plomb, violence politique, contestation sociale, et la présence donc de la bande Abadère avec la RAF, la Rote Armée Fraction, la Fraction Armée Rouge. Et Kreuzberg, là-dedans, se situe comme un centre des luttes étudiantes, pas que. De nombreuses attaques donc policières contre ces squats qui sont définis par l'État comme appartenant à la mouvance, entre guillemets, terroriste. Alors les conséquences sur la vie musicale, Kreuzberg devient donc ce symbole du mouvement punk, on passe du Peace and Love avec au futur plutôt, l'apparition de groupes assez connus pour ceux qui ont suivi cette période. Alors on va pas tous les passer, mais on peut citer PVC par exemple, ou Catapulte, si vous voulez, je peux passer quelques extraits, on peut se faire une petite pause musicale, c'est voilà. Et là... Ce sera...
On était là pour ça quand même.
À la base.
On est là pour ça. Et je vais vous passer donc un des groupes phares, Beto Combo Kreuzberg. Il est où ? Il est là.
Moi, je vis en banlieue, où je prends mes vacances.
Thank you.
c'était donc un petit extrait donc de ce groupe, pardon, Beto Combo, Kreuzberg, donc né en pleine période de cette décennie.
Il y a un petit côté Aznavour, je trouve, sur l'intro.
Ouais, un petit côté Aznavour, parce qu'il y a, l'idiot en, en régie qui s'est trompé de bouton. Voilà, je suis désolé. Alors c'est surtout là-dessus que moi je voulais surtout parler de ça dans cette émission, juste pour finir un peu l'histoire sur ce lien entre l'état de l'urbanisation et le lien sur les cultures musicales, qui est plutôt une approche intéressante, je trouve, hein, qui peut être discutée, mais qui est un truc qui est intéressant. Du coup, on en est aux années 70, on est aux années 80, et là, ça change complètement. Donc la rénovation, on passe une rénovation qui est beaucoup plus douce, avec ce que l'IBA, du coup, je vous en parlais tout à l'heure, hein, et l'apparition de la New Wave. Je vous le rappelle, il y a une directive donc en 1981 qui casse ce mouvement squat, intervention systématique dans les 24 heures, gros procès, arrestation massive. Du coup, se met en place une nouvelle organisation des habitants, des populations qui y vivent, sous forme d'associations, de coopératives, qui rachètent ou qui louent les bâtiments, ce qui donne naissance donc aux premiers squats légaux, ou aux centres sociaux, ce qu'on pourrait appeler ailleurs des centres sociaux. Un qui est assez mythique, c'est l'UFA Fabrique. Mais en 83, donc, cette politique s'assouplit, hein, la répression s'assouplit un peu, ça ne veut pas dire qu'elle continue pas, mais elle prend une autre forme. Plus de concertation avec les populations, on passe de la destruction aux reconstructions à la réhabilitation de l'ancien, qui n'est pas la même chose. Et les autorités financent même tous les projets auto-organisés, comme la construction des jardins d'enfants, des ateliers d'artisans, petites usines, etc. Mais le meilleur outil, c'est cette fameuse IBA, l'Exposition Internationale d'Architecture, qui a eu lieu en 87, mais qui a surtout donc été une politique novatrice sur le long terme, un programme de requalification urbaine, autrement dit, une rénovation-réhabilitation douce en accord avec la population, dont Kreuzberg est encore un exemple. Ouais. Alors, sans faire de déterminisme urbain, ce qui, ils insistent aussi là-dessus, ce qui est plutôt pas mal, on voit quand même que les poches résistantes dures disparaissent petit à petit et apparaît donc des quartiers un peu plus aseptisés, un peu plus pacifiés et une autre forme de musique, la New Wave. J'ai désolé pour ceux qui aiment bien la New Wave. Ouais. Voilà, la New Wave. Alors là, en réponse encore de ces quelques îlots, j'ai appris qu'il y avait un mouvement qui s'appelait le No Wave en réponse à la New Wave. No, donc No Wave, pas de vague. En réponse, et qui était inspiré par des groupes new-yorkais, quoi. Alors je vais un peu m'arrêter là, parce qu'après on passe aux années 90, donc Kreuzberg va devenir le quartier qu'on connaît aujourd'hui, hein, qui est un quartier donc mixte, et, mais qui est complètement aseptisé par rapport à ce qui se passait avant.
C'est fort quand même, parce que ces événements comme ce que tu parlais là, le IBA ?
IBA, ouais.
C'est en fait, on en retrouve un peu
capital partout. Européen de la culture.
Exactement, ouais. Ouais, ça se retrouve vraiment partout, avec les mêmes effets et en fait les mêmes... but plus ou moins avoué, quoi.
Tout à fait. Alors voilà, j'ai fini ma petite intervention sur Kreuzberg, parce que je vous redonne c'est Boris Grésillon. Il y a pas mal de liens en bibliographie à voir à partir de ce texte qui sont assez intéressants, donc clairement le lien entre un urbanisme, une politique urbaine et ce que ça crée sur différentes contre-cultures. Je vais peut-être arrêter les extraits, c'est con, j'avais plein d'extraits musicaux.
Dommage.
Mais on n'a pas trop l'heure. Alors je vais laisser la parole.
Eh ben ouais, là je vous propose de revenir en France et de faire un petit bond dans le passé. Je pense qu'on connaît tous cette expression, c'est la zone. C'est la zone pour parler d'un endroit sinistre, d'un endroit un peu en bordel, un endroit où on n'a pas trop envie de traîner. Ou peut-être que si, en fait. Et en fait, cette expression de la zone, elle vient des terrains qui étaient autour de l'enceinte Thiers. Donc l'enceinte Thiers, c'était les fortifications de Paris qui avaient été construites entre 1841 et 1844. Et ces terrains consistaient en une bande de 250 mètres de large de 250 mètres de large qui était zone non edificandi, donc non constructible. Et le but de cette zone, c'était de laisser l'ennemi qui arrivait aux portes de la ville à découvert. Donc on pouvait le dégommer plus facilement. Et donc ces fortifications, elles deviennent vite un lieu de promenade pour différentes couches de la population parisienne. On trouve des guinguettes là-bas qui étaient extérieures à la ville pour esquiver un peu les taxes sur l'alcool qu'on devait payer à l'entrée de Paris. On trouvait des foires, des brocantes, des baraques un peu provisoires, de quoi bouffer, de quoi boire, de quoi se détendre le dimanche. C'était un petit peu un lieu de détente. On trouvait aussi même des ateliers, des fabriques. Et c'était principalement des pauvres qui venaient s'installer sur cette zone. En fait, à cette époque-là, Paris ne peut plus absorber la population qui est poussée des campagnes par l'exode rural. Et les travaux haussmanniens dont on parlait, plus la spéculation immobilière, elle repousse les habitants modestes du centre de Paris vers la périphérie. Alors la zone, elle borde Paris par le sud, où c'est plutôt une zone campagnarde. On trouve des pavillons, des jardins. C'est un peu la banlieue dont parle Reda Kerr dans la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure. Alors que la banlieue nord est plutôt sinistre. Il n'est pas ou peu pavé, donc complètement boueux. Il n'y a pas de points d'eau, il n'y a pas d'égout, les détritus ne sont pas évacués, donc c'est des maladies qui se répandent et la mortalité dans cette zone est vachement plus élevée que partout ailleurs autour de Paris. Les zoniers, donc les habitants et habitantes de la zone, les zoniers et zonières vivent dans des cabanes, dans des roulottes, dans des habitats de fortune. Sont des chiffonniers, des ferrailleurs, des éboueurs. Ils récupèrent les rebuts qu'ils peuvent trouver à droite à gauche pour en faire des matières premières pour l'industrie, pour le revendre aux industries. Et ils réparent et revendent aussi au marché aux puces un peu tout ce qu'ils peuvent dégoter. C'est vraiment des petits boulots. On trouve des prostituées, on trouve des ouvriers très pauvres et un petit panel d'escrocs, de joueurs de bonneto, de voleurs plus ou moins violents et qui finalement relèvent plus de la mythologie de la zone, c'est des idées reçues de la bourgeoisie parisienne qu'à la réalité. Cette bourgeoisie parisienne, elle voyait les zoniers comme des barbares, comme des criminels, alors que en fait c'était... En ce qui concernait la délinquance, c'était plus une petite délinquance d'arnaque, de bagarre. Voilà, on trouvait plutôt une population là-bas, une population ouvrière pauvre et de petits métiers. Au final, cette zone, elle suscite la crainte et on peut voir là-dedans une stratégie politique via la presse d'attribuer la violence à une population donnée et de circonscrire l'insécurité à un périmètre très précis, en dehors des murs de la ville de Paris, et ce qui permet de détourner le regard de ce qui se passait intramuros, qui n'est pas forcément plus reluisant dans les quartiers populaires. Et puis, comme c'était une époque de troubles, on en a parlé, de troubles sociaux et de troubles politiques, avec la révolution de 1848 et la commune de 1871, c'était une manière également de reléguer les classes jugées dangereuses à la périphérie de la ville et même en dehors de l'enceinte. D'ailleurs, à partir des années 20, le progrès de l'artillerie rend les fortifs inutiles et elles sont progressivement démolies. Les zoniers sont expulsés des terrains qui sont récupérés par la ville de Paris. Et derrière ça, on peut voir bien sûr un aspect sécuritaire et hygiéniste, mais aussi une façon de se débarrasser de ce qui était considéré comme un danger aux portes de la ville avec les révolutions et mouvements sociaux qu'avait connus la région dans ces dernières années. Alors la lutte des habitants et habitantes de la zone, elle s'organise face à l'expropriation, à la destruction en fait de leur habitat. Elle s'organise sous la forme du syndicat des zoniers, de la ligue des zoniers et de son hebdomadaire qui s'appelait Le Zonier. Voilà, Le Zonier n'a pas forcément beaucoup d'imagination, mais malheureusement, cette lutte n'a pas été très efficace, principalement à cause des différences d'intérêts entre les zoniers légaux qui détenaient des titres de propriété sur les parcelles qu'ils occupaient et ceux qui s'étaient un peu installés là où il y avait de la place et avaient construit leur cabane à cet endroit. Donc sur la zone qui est progressivement débarrassée de cet habitat de fortune, c'est des HBM, donc habitations à bon marché, qui sont un peu les ancêtres des HLM, qui sont construites. Mais la disparition des cabanes, des roulottes, des bidonvilles, elle se fait progressivement et la cohabitation est difficile entre les deux populations, les populations de locataires des nouveaux immeubles et la population des habitats plus précaires. Donc les derniers zoniers sont expulsés en 1970. Et aujourd'hui, c'est le périph qui a pris la place des anciennes fortifs de Paris, mais les bidonvilles existent toujours et on peut constater que c'est toujours les déclassés qui occupent la ceinture de la ville. Alors s'il y a un groupe qui a bien chanté la zone, c'est La Souris Déglinguée et je vous propose d'écouter Sur la zone.
Non. Je suis tombé amoureux d'une putain de zone. Depuis le jour où je l'ai connue, elle me colle à la peau. D'ailleurs toi tu la connais aussi bien que je la connais, puisque tu es né sur la zone. Sur la zone, sans moi, jusqu'à Mignoncourt, de Pleyel jusqu'à Sarcelles. Sur la zone et tout là-bas, tout au nord, on l'a aimé la première fois. Elle n'avait qu'un seul nom, et son nom c'est la zone. Quand elle m'a dit je t'aime, y a Bastia et Patricia, Saïd et tous les autres, François Pérez et ses frères, les meilleurs et j'en passe. Ils ont pas voulu sortir, ils sont restés là-bas, car ils m'ont dit que tout est mieux sur leur zone. Et sur la zone de Savoie jusqu'à Mignoncourt, de Pleyel jusqu'à Sarcelles. Sur la zone et sur la zone et tout là-bas, tout au nord, on l'a aimé la première fois. Elle n'avait qu'un seul nom et son nom c'est la zone. Quand elle m'a dit je t'aime.
On va même pas avoir le temps de finir d'écouter ce morceau qu'on est obligé de couper parce que l'émission arrive à sa fin. Et avant de vous quitter, on voulait juste vous donner 2-3 rendez-vous, notamment le rendez-vous de demain à 10h30 au Vieux-Port, qui est une manifestation appelée par les syndicats. Si vous voulez lire l'appel, vous pouvez aller sur le site de Mille Babord qui a relayé l'appel. Sinon, dimanche à 14h sur la Plaine, il y a la Roue de la Fortune et musique en soutien au 21e Carnaval de la Plaine. Et toujours dimanche 7 février à 14h30 cette fois, il y a le collectif pour une alternative démocratique et sociale en Algérie qui appelle à une manifestation en soutien au mouvement du Irak qui est algérien. Et pareil, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller sur le site de Mille Babord ou sur le site de MIA. Les deux sites relayent tous ces appels-là, de tous ces rendez-vous de la fin de semaine. Voilà. Et ben on va se dire dans un mois, pour ce qui concerne l'émission d'histoire qui ne fait pas d'histoire. Et ben vous pouvez continuer d'écouter Libre Débat mercredi prochain.
Ciao.
Ciao.